Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui en ce dimanche qui suit l'Ascension, c'était jeudi. Alors vous n'avez peut-être pas célébré l'Ascension, mais vous avez pris votre jour de congé. Ce jour-là, Jésus est monté aux cieux, seul, sans fusée. Et les anges ont dit aux observateurs qu'il reviendra par le même chemin. Nous l'attendons donc revenir dans la gloire à notre rencontre. Mais saviez-vous qu'il est déjà revenu et qu'il a commencé son règne? Vous étiez au courant, vous? Pas moi, hein? C'est pourtant ce qu'affirme l'Église du Dieu Tout-Puissant. Elle dit que Christ est revenu en 1991, qu'il est une femme cette fois, pour changer, hein, la mode, et qu'il vient d'Orient, de Chine plus précisément. Alors je vous renvoie à un bon article du Bon Combat qui fait bien le tour de la question. Cette église est une secte chinoise qui a été expulsée de Chine et qui a trouvé refuge aux États-Unis. Et depuis 2018, ses adeptes sont apparus en France. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'infiltrent dans les groupes de réseaux sociaux. Ils tissent des liens amicaux avec les membres, très amicaux, très polis, très courtois. Et ils attirent subtilement les gens dans leur réseau. Ils disent « Ah, tu connais cette vidéo, etc. » Vous avez peut-être déjà eu affaire à eux. Moi, oui. J'en ai rencontré un ou deux. Pour nous qui connaissons bien la parole de Dieu, leur discours est facile à réfuter. Mais ils font des dégâts chez les plus ignorants. Eh bien, figurez-vous que Timothée et Paul ont eu affaire à des individus semblables, ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons le troisième volet de notre série sur la deuxième lettre de Paul à Timothée. Nous avons déjà vu que cette lettre est la dernière écrite par Paul. Il est en prison à Rome et il écrit à son jeune disciple Timothée, qu'il appelle affectueusement « mon enfant » pour traiter différents sujets. Timothée, lui, est à Éphèse. Il a dû envoyer un message à Paul avec ses préoccupations. Paul aimerait que Timothée le rejoigne. Il exhorte à être fidèle en toutes circonstances, à ne pas être surpris par les différentes épreuves du ministère, car Paul a souffert aussi, et Jésus aussi. Ils sont donc à l'image de leur maître. L'important est de persévérer jusqu'au bout pour être trouvé digne. Parmi les épreuves rencontrées, il y a eu les mauvais traitements, les emprisonnements, les médisances, les abandons, les trahisons. Et ce matin, on va voir un problème suffisamment préoccupant pour que Paul se permette de donner des noms. Alors ce matin, j'ai choisi de vous donner le contexte du problème et les sous-thèmes rencontrés, car ils sont tellement entremêlés qu'il vaut mieux le faire avant la lecture du passage, pour mieux en profiter ensuite quand on va lire les versets en question. Alors, premier thème, à Éphèse, Timothée doit faire face à des cas de disputes. Les disputes et les querelles ne sont pas un fruit de l'esprit, mais sont les œuvres de la chair. Elles sont donc à éviter. Un serviteur de Dieu ne doit pas avoir de querelles, lui qui est avancé dans la foi. Parmi les disputeurs, il y a des contradicteurs qui se plaisent à contredire l'enseignement de Timothée en public. Hein, ce n'est pas juste une dispute en privé, là... Ils peuvent même l'interrompre dans ses messages pour le contredire. C'est plus grave, car toute l'Église est témoin. Le ministère de Timothée est remis en cause. Et parmi ces contradicteurs, Paul en nomme deux, car ils répandent un mauvais enseignement. Il s'agit de Hyménée et Philète. Hyménée a déjà été évoqué dans la première lettre de Paul à Timothée, et il avait été exclu avec un autre appelé Alexandre. Comment répondre aux contradicteurs en général? Il ne faut pas perdre de temps à débattre en allant sur leur terrain, mais au contraire les ramener sur le terrain de la parole de vérité. Le cinquième thème, dans ce cas concret, ces hommes prétendent que la résurrection a déjà eu lieu. D'après leur nom, ces hommes d'origine grecque ont l'air de répandre une philosophie gnostique qui commence à prendre de l'ampleur dès la fin du 1er siècle et surtout au 2e. Ils ne s'intéressent pas à la résurrection des corps, mais seulement à la résurrection spirituelle, symbolique, n'affectant que l'esprit. Et du coup, la résurrection des corps, chère à la théologie juive, disparaît totalement. Et, sixième thème, Timothée ne doit pas se laisser déstabiliser par ses enseignants de mensonges qui vont à la perdition, mais rester ferme, fidèle à la parole et être un outil réservé à un usage noble, selon une image des vases nobles et des vases destinés à un usage vil ou courant. Voilà les thèmes qui sont abordés. Et nous allons maintenant commencer notre lecture en ayant à l'esprit ces différents thèmes. Verset 14. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Que veut dire Paul par « c'est cela » Eh bien, c'est ce qui précède et que je vais vous relire, qu'on a vu dimanche dernier. « Car mes paroles sont certaines, si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. » Donc l'enseignement de la parole au sujet de la résurrection, c'est qu'elle est réservée à ceux qui sont morts en Christ et qui ont persévéré jusqu'au bout. Voilà ce qu'il faut affirmer sans se disperser. Ceux qui ont peur d'avoir raté la résurrection, donc l'enlèvement et tout ça, ne doivent pas craindre pour eux s'ils sont fidèles à Christ. Parce que lui est fidèle. Et il faut éviter les disputes de mots, elles font perdre du temps et n'aboutissent à rien. Ces sujets sont à éviter dès lors qu'il y a dispute. Versets 15 et 16. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. Timothée devra rendre compte à Dieu de son enseignement. Il doit montrer qu'il a transmis correctement la parole de Dieu, sans la déformer, sans en faire un prétexte pour parler d'autre chose, sans perdre de temps à faire la publicité des faux enseignants au prétexte qu'il faut les réfuter. Ainsi, il ne faut pas chercher les débats contradictoires. Si on y est obligé, on doit éviter de citer les textes de l'adversaire pour les contrer, mais plutôt citer la Bible. Car que cherche l'autre? Il cherche à ce qu'on parle de lui, de sa théorie, de ses propres textes sacrés, de sa religion et de ses faux dieux. Il ne faut pas lui rendre ce service-là. D'autant plus qu'il sera compétent dans son domaine, et vous non. Restons dans le domaine où nous sommes compétents. La parole de Dieu, la Bible, la vie de Jésus, et n'en sortons pas. Au moins, même si vous êtes contrés, vous aurez déjà cité la parole de vérité. Vous voyez, dans les débats. Verset 17. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Là, nous voilà dans le concret. On n'est plus dans l'abstrait, c'est concret. On voit de qui parle Paul. Alors, Philète n'est cité qu'ici. On ne sait rien de plus sur lui. Hyménée. Il est grec comme lui. Son nom vient de celui d'un héros de la mythologie grecque qui est le dieu du mariage, Hyménée. Hyménée est cité dans la première épître à Timothée qui dit « Certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. » En clair, ces deux hommes ont été exclus de l'église d'Éphèse par Paul lorsqu'il y était. Alors, c'est un exemple du temps de Paul, mais il se pourrait qu'Hyménée ait profité du départ de Paul pour faire sa réapparition et ennuyer Timothée. Il pourrait, c'est au conditionnel, c'est pas trop. Verset 18. Ils prétendent que la résurrection a déjà eu lieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Alors, écartons tout de suite une piste. À l'époque où parle Paul, l'Apocalypse de Jean n'a pas encore été écrite avec le fameux chapitre 20 qui parle de première résurrection suivie d'un règne de 1000 ans. Donc nous ne sommes pas du tout dans les discussions très contemporaines qu'on a en ce moment, de millénium avec les positions prémillénaristes, amillénaristes, postmillénaristes. Là, penser que c'est ça, ça serait une sorte d'anachronisme. Le seul point commun est que là aussi, on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie en disputes de mots et de querelles théologiques. La deuxième piste que j'écarte, c'est celle des Sadducéens, ces Juifs qui ne croyaient pas du tout à la résurrection. Ce ne sont pas ceux-là qui viennent embêter les églises, car ils ne croient pas non plus que Jésus est le Messie. Troisième piste, les commentateurs pensent plutôt que leur position relève de la gnose. Dans ce cas, Hyménée enseigne que nous sommes déjà ressuscités dès notre conversion. Donc, on se convertit, on est né de nouveau, on est ressuscité en quelque sorte. Que nous régnons déjà avec Christ et que nous n'avons rien d'autre à attendre que la continuation sans fin de cet état. Notre mort n'aurait aucune espèce d'importance puisque notre esprit continue de vivre. Alors, c'est à la fois juste et faux. Vous allez trouver des versets qui vont un peu... Dans ce sens-là, déjà, nous régnons, etc. Mais depuis que Jésus nous a donné les arts de l'esprit, nous sommes dans ce qu'on appelle le « déjà et pas encore ». On a déjà des choses, les arts, mais on n'a pas encore tout ce qui est promis. On attend encore d'autres choses. Non pas que Dieu n'est pas fidèle, mais c'est parce que c'est pour un autre temps qui n'est pas encore arrivé. Donc déjà nous régnons avec lui, mais nous attendons encore, entre autres, la résurrection physique, la résurrection des corps. Cette résurrection physique ne peut pas arriver avant le retour de Jésus-Christ. Ces deux événements sont concomitants, ils arrivent en même temps. Retour de Christ dans la gloire. Et avant le retour de Christ, que doit-il se passer ? Alors, il faut d'abord... que le grand rejet ou l'apostasie soit apparu, hein, et l'Antichrist. Au sujet de la venue, alors je vais lire 2 Thessaloniciens 2, 1 à 5, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Tiens, même problème. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'on va voir dimanche prochain, enfin la prochaine fois de cette série, et que soit révélé l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, hein, celui qu'on appelle l'Antichrist aussi. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas ? Donc, et avant la venue de Christ et de l'Antichrist, qu'avons-nous ? Jésus nous dit, la venue de faux Christ et de faux prophètes. Donc, si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, il est en Chine, il est aux États-Unis, il est en Israël, ne le croyez pas. De faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Donc il n'est donc pas possible que la résurrection des corps ait eu lieu. Ça ne colle pas avec l'agenda. Hyménée est donc bien un de ces faux enseignants qui sont là pour perturber l'Église. Il perturbe l'Église car il décourage ceux qui pensent avoir raté la résurrection et être laissés pour compte. Ces faux enseignants essayent de faire sortir les brebis du troupeau en leur faisant croire que leur pasteur n'est pas inspiré comme eux. Ce sont des voleurs de disciples. C'est pour cela qu'ils contredisent le pasteur en place pour le discréditer aux yeux des fidèles. Verset 19. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Que ceux qui sont perturbés à l'idée d'avoir été exclus de la résurrection se rassurent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il a sa checklist et vérifiera que tout le monde soit présent à l'embarquement. N'oubliera personne. Mais il laissera ceux qui ne sont pas à lui et qui pratiquent le mensonge. Le signe que vous lui appartenez, c'est que vous vous êtes détourné du mal et que vous montrez les fruits de l'esprit. Vous vous êtes détourné du mal ? Oui, j'espère. Mais si ce n'est pas le cas, ben, réfléchissez sérieusement à cette question-là. Paul va utiliser maintenant une image qu'il a déjà utilisée dans l'Épître aux Romains. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont je vous ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors, parmi ceux qui se disent faire partie du peuple de Dieu, il y a deux sortes de personnes. Les unes sont comparées à des vases d'or et d'argent. Ce sont des objets d'honneur qu'on met en valeur dans la maison, avec fierté, des objets nobles. D'autres sont destinés à l'usage courant. Ils ont moins de valeur. Dans cette catégorie, alors, vous avez les seaux en plastique. Le plastique n'est pas signalé par Paul, hein, mais on comprend pourquoi. Hein. Donc, vous avez les seaux en plastique pour remuer le plâtre ou le ciment, les bassines, les pots de chambre même. S'ils se cassent, on jette et on remplace sans état d'âme. Le chrétien qui veut être considéré comme un ustensile de valeur va se garder pur. Il va éviter de pécher, il va éviter l'hérésie également, il va être disponible pour toute bonne œuvre. Voilà ce qu'il doit faire. Verset 22. Paul revient à Timothée. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Alors, dans les débats théologiques, souvent on peut s'enflammer pour avoir le dernier mot. Il faut éviter les discours passionnés. Sorti de son contexte, ce verset et le début du verset, « Fuis les passions qui assaillent un jeune homme » pourrait faire penser aux tentations sexuelles. Mais ici, je ne pense pas. Dans le contexte, Timothée doit rester en paix avec tous. Il doit éviter de se faire des ennemis inutiles et il doit garder une bonne conscience. versets 23 et 24, refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Voilà, le contexte nous dit que Paul parle toujours des disputes. Il n'y a pas que la fin des temps qui conduise à des désaccords. Vous le savez bien, à table, on ne parle pas de politique ou de religion avec ses invités, c'est bien connu. Dans l'Église, il y a aussi des sujets qui fâchent. Donc le déroulé de la fin des temps, le don des langues, la place des femmes dans l'Église, ce qui se mange ou ce qui ne se mange pas, la fête de Noël, le débat création-évolution, etc., etc. Hein, vous voyez bien tous les sujets qui fâchent. Et c'est normal. Avant notre conversion, nous avons été imprégnés de l'esprit du monde. Et plus nous avançons, plus nous sommes exposés à la parole de Dieu qui nous dit autre chose. Il peut y avoir des points difficiles à avaler. Donc soyons donc patients avec les autres qui sont moins avancés et souvenons-nous de nos propres difficultés à tout comprendre et accepter. Restons humbles, car c'est peut-être moi qui me trompe. Et fuyons les querelles. Versets 25 et 26. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Alors, Timothée, comme tout enseignant, doit instruire à la fois les débutants et répondre à leurs questions, mais il doit être capable de répondre aux plus avancés qui lui demandent son avis sur tel ou tel point controversé. L'idée ici n'est pas de chercher à exclure d'emblée les hérétiques, mais de faire progresser les étudiants de la Bible dans leur compréhension. Vous savez, comme moi, que lire toute la Bible, c'est long. Le raccourci, c'est de lire un livre ou une vidéo qui traite de tel ou tel sujet. On avale ainsi un travail tout mâché par quelqu'un d'autre. Encore faut-il que ce quelqu'un d'autre soit fiable. Timothée doit permettre à l'étudiant de repérer les fautes d'exégèse, de discerner si l'auteur ou le prédicateur raisonne juste. Ainsi, en discutant calmement, on peut mieux voir les erreurs de raisonnement. L'enseignant a le privilège de bien connaître sa Bible et la saine doctrine, et il va repérer de suite ce qui cloche. Ainsi, il va aider son disciple à sortir de l'emprise de l'enseignant hérétique. Ce n'est pas toujours facile. Il existe des sectes dont on ne sort qu'avec beaucoup d'efforts. Alors essayons de lier la gerbe maintenant. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Quand j'étais assistante de paroisse ici dans les années 97 à 2001, je participais au pastoral, des rencontres qui se passaient entre pasteurs de l'Alliance, là, de l'Alliance Baptiste, le lundi. Une fois, le thème de la pastorale était le suivant: comment faire lorsque l'Église est attaquée par un faux prophète? Deux églises de la pastorale avaient eu le même problème presque en même temps. Des individus se présentant comme prophètes arrivaient, tissaient des liens amicaux avec plusieurs personnes, puis une fois intégrés, ils se disaient prophètes et commençaient à enseigner en petits groupes. Ensuite, ils ont commencé à dire que le pasteur n'était pas vraiment rempli de l'Esprit-Saint. Du coup, celui-ci avait du mal à se défendre parce qu'il était personnellement mis en cause. Il ne savait plus quoi faire. Une partie de l'Église prenait parti pour le prophète, une autre pour le pasteur. Il a fallu faire intervenir un médiateur, un pasteur d'une autre Église, de l'Alliance. On n'était même pas encore entré dans l'association baptiste à l'époque, c'était encore l'Alliance baptiste, la BPN. Et dans nos milieux non charismatiques, on n'a pas l'habitude de voir arriver des prophètes. Alors on a demandé conseil à un pasteur d'une église baptiste charismatique. Et voici ce qu'il nous a dit. nous a dit que chez eux, nul ne peut s'autoproclamer prophète. Quelqu'un qui a un ministère de prophète doit être reconnu officiellement comme tel par son Église, comme nous on reconnaît nos pasteurs ou nos anciens. Les églises charismatiques reconnaissent officiellement les pasteurs. S'ils se déplacent comme visiteurs, ils doivent produire des attestations et des recommandations délivrées par son église d'origine. C'est ainsi que les églises de type charismatique se protègent elles-mêmes. Là, dans notre cas, ce n'était pas le cas. C'était une tentative d'OPA pour s'emparer de l'église ou au moins se débarrasser du pasteur. Les fruits mauvais étaient manifestes. Des clans, des divisions, des accusations, une absence de paix. Cela s'est terminé par l'exclusion de ces fauteurs de troubles, mais il y a eu plusieurs personnes qui ont dû partir aussi, celles qui avaient pris le parti du soi-disant prophète. Et cela a laissé l'Église meurtrie. Donc vous voyez que c'est des problèmes qui peuvent rester encore très actuels. C'est pourquoi j'arrive à notre conclusion là. Premièrement, nous choisissons avec soin nos pasteurs, nos anciens, nos diacres et nos enseignants. Et même si nous votons pour leur place au sein du conseil, ce n'est pas l'un contre l'autre, hein, vous avez vu. C'est sur proposition du conseil qui a préapprouvé la candidature et leur aptitude à enseigner. Pour les enseignants, nous leur demandons une formation théologique solide et validée par une des écoles en qui nous avons confiance. En tant qu'enseignant, deuxième point, nous devons toujours progresser davantage dans la fidélité à la parole de Dieu et veiller sur notre enseignement, afin qu'il ne se retourne pas contre nous. C'est une responsabilité, parce que nous devrons rendre compte devant le Seigneur de notre enseignement. Nous avons aussi une confession de foi qui s'impose aux membres. Ceux qui auraient des désaccords théologiques, mais qui viennent ici quand même, alors, soit devraient fréquenter une autre église, ou si c'est loin, mettre en sourdine leurs désaccords. Hein, je sais qu'ici, par exemple, il y en a plusieurs qui parlent en langue, ils le font chez eux, mais ici, eh bien, ils ne le font pas. Voilà, ils savent que c'est une église qui est non charismatique. Troisième point. Il arrive que certains frères ou certaines sœurs soient de caractère querelleur. Souvent, on constate des remous autour d'eux, des critiques, des médisances, des partis pris. Alors gentiment, ces personnes sont invitées à revoir leur attitude. Et s'il n'y a aucune amélioration, on peut leur retirer des responsabilités, même si elles ont de nombreuses compétences. Car il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, hein, c'est ce que nous avons lu. Quatrième point, si une querelle apparaît, cherchons rapidement à éteindre le feu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, mais l'Esprit du diable. On reconnaît l'arbre à son fruit, les disputes sont les œuvres de la chair. Donc dès que l'on s'aperçoit qu'une bonne conversation animée tourne à la dispute de mots, il faut s'arrêter pour rester dans la paix avec ses frères et sœurs. Ne laissons pas l'occasion à l'ennemi de nous diviser. Le ton monte ! Le ton monte ! Baissons le volume de nos voix. La paix et l'amour valent plus que d'avoir le dernier mot. Cinquième point. Prenons le temps, calmement, après, de faire une étude biblique approfondie qui mettra tout le monde d'accord, avec l'assistance ou la médiation d'un enseignant de la parole, afin d'approcher la vérité. Je reprends les paroles de notre texte, faisons tous nos efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un corps pur. En conclusion, prions pour notre Église. Remercions notre Dieu de l'avoir préservé des querelles, gardé unis en paix, dans l'amour. Prions pour nos enseignants afin qu'ils veillent sur leur enseignement comme sur un trésor, le préservant de toute altération, pure et fidèle à la parole de vérité. Prions pour le conseil qui veille sur le troupeau et surveille tout risque de division, de querelle, de dispute, et qui doivent intervenir parfois de manière radicale. Prions pour nos frères et sœurs afin de ramener en douceur celui qui s'égare ou qui dérape ou se laisse influencer par des idées étrangères. Prions pour nos jeunes, toujours prêts à s'enflammer pour une cause à la mode, afin qu'ils aient du discernement et de la modération dans leurs propos. Prions pour nous-mêmes, afin que l'Esprit nous aide à fuir tout climat malsain, conflictuel, et qu'il nous corrige si c'est nous qui sommes à l'origine de disputes. Et remercions le Saint-Esprit qui nous aide dans tout ceci. Amen.